VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, heureux de vous retrouver pour une demi-heure d'infos et de décryptage de l'actualité. Jacques Aristide et Anne Albertson avec vous en ce mardi 28 juillet 2015. Les titres ce matin, entretien ce mardi sur le Burundi au Conseil de sécurité de l'ONU. Pendant ce temps, le principal opposant burundais Agathon Rwasa est montré du doigt pour avoir décidé de siéger au Parlement, fraîchement élu mais contesté.
Je ne comprends pas en quoi sa présence dans les institutions peut changer le sort de ces militants qui ont été persécutés depuis plusieurs années, qui sont tués, qui sont emprisonnés.
Au Burkina Faso, le président Michel Kafando cède son fauteuil de ministre de la Sécurité.
L'armée tchadienne lance une vaste opération contre Boko Haram sur le lac Tchad.
Les scouts d'Amérique acceptent désormais des cadres homosexuels.
Dans la partie magazine, qu'attendre du discours ce mardi du président américain Barack Obama depuis le siège de l'Union africaine à Addis Abeba?
Depuis qu'il est sénateur, il avait dit que si l'Afrique ne règle pas les problèmes de corruption, ce n'est pas la peine d'essayer de développer ce continent. Je pense qu'il va dire exactement la même chose. Il y a aussi le point du terrorisme qu'il va aborder, je crois.
À venir également la Minute Éco et la page sportive.
Les 15 pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU doivent tenir des consultations cet après-midi sur la crise au Burundi. Ces discussions à huis clos, selon l'AFP, se tiendront une semaine après l'élection présidentielle qui a vu la réélection du président sortant Pierre Nkurunziza pour un troisième mandat. Le scrutin a été jugé non crédible par Washington, par l'opposition burundaise et par les observateurs internationaux qui l'ont suivi. Nous reviendrons sur ce dossier Burundi tout à l'heure dans notre partie magazine.
Le président burkinabé Michel Kafando a procédé hier à un léger réaménagement du gouvernement avec la nomination du colonel Sidi Paré au poste de ministre délégué à la sécurité, rapporte l'AFP. Le magistrat militaire décharge ainsi le président Kafando du portefeuille de la sécurité qu'il occupait depuis le 19 juillet. Le président Kafando avait récemment démis l'ex-ministre Auguste Denis Barry, un bras droit du premier ministre, le lieutenant-colonel Isaac Zida, pour satisfaire l'armée qui réclame le départ des militaires du gouvernement. Le chef de l'État conserve toutefois le ministère de la Défense, dont il a déchu le chef du gouvernement à 3 mois d'une élection présidentielle cruciale. Cette situation a provoqué une crise politique majeure au Burkina.
Un haut responsable du premier parti d'opposition au Congo Brazza a été de nouveau interdit lundi soir par la police d'embarquer à bord d'un vol Air France Brazzaville-Paris. Pascal Tsati Mabiala a déjà été empêché de quitter le territoire congolais début juillet. Un officier m'a tout simplement dit que j'étais interdit de voyager jusqu'à nouvel ordre. Selon cet officier, l'interdiction est simplement verbale mais ferme et vient de la hiérarchie, a déclaré à l'AFP ce premier secrétaire de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale. Désormais, je me considère comme un prisonnier au Congo après cette deuxième interdiction de voyager, a ajouté le député.
En Chine, les médias d'État dénigrent les voyages du président Barack Obama en Afrique et soutiennent qu'ils sont motivés par l'influence croissante de Pékin sur le continent, dont les Chinois sont aujourd'hui les principaux partenaires commerciaux. Les précisions de Lionel Gaïma.
Le chroniqueur Lion Zun a écrit lundi dans Global Times que les États-Unis, je cite, « n'ont pas évidemment une politique constante envers l'Afrique et voient la Chine comme une rivale dans le domaine des opportunités économiques plutôt qu'une autre puissance constructive pour apporter le bien-être au continent ». De son côté, l'agence Chine Nouvelle a fustigé les ouvertures américaines tout en mettant en exergue le propre projet de la Chine. Elle a ajouté que malgré tout le bruit fait tout autour, les programmes d'aide des Américains en Afrique n'ont pas fait une grande différence. Xinhua réagissait ainsi au programme d'un milliard d'aide aux entrepreneurs internationaux en Afrique subsaharienne annoncé par le président Obama. Par ailleurs, Power Africa, un projet de 7 milliards de dollars pour fournir l'électricité à 50 millions d'Africains, a fait peu de progrès, estime l'agence de presse qui cite un article des Échos en France. En août dernier, à Washington, le président Obama a organisé un sommet auquel ont participé 50 chefs d'État africains et qui a porté pendant 3 jours sur plusieurs volets, sécurité, santé, environnement et corruption. À cette occasion, les les États-Unis ont annoncé des accords portant sur 1 milliard de dollars environ dans le secteur des affaires, davantage de fonds pour des opérations de maintien de la paix et des milliards de dollars pour des projets concernant les vivres et l'électricité. Bien que ce sommet ait été critiqué comme une tentative de contrer l'influence chinoise, l'Europe et le Japon ont pris de leur côté des initiatives similaires avec des dirigeants du monde de la politique et des affaires en Afrique.
11 pays africains réunis en sommet en Mauritanie ont réclamé hier la levée des sanctions imposées contre le Soudan, qui est sous embargo commercial américain depuis 1989. Rachid Bouda nous en dit plus.
Cet appel a été lancé dans un élan de solidarité entre les pays membres de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. En plus du président Omar El-Béchir, faisant l'objet d'un mandat d'arrêt international, les chefs d'État du Burkina, du Mali et du Tchad ont également pris part à la rencontre. Le déplacement du président soudanais s'est effectué sans inquiétude vu que le gouvernement de Nouakchott n'est pas signataire du traité de Rome ayant institué la CPI. Élaboré en 2005, le projet de Grande Muraille Verte vise à construire un espace vert long de 7000 km et de 15 km de large allant de Dakar à Djibouti pour surmonter le grand défi écologique auquel fait face le continent africain. Les participants au sommet de Nouakchott se sont donnés comme délai l'horizon 2025 pour atteindre l'objectif de mise en place de véritables pôles ruraux de développement le long du tracé de la barrière de végétation.
Mobilisation de l'armée tchadienne dans la région du lac Tchad en réaction aux récentes attaques de la secte islamiste Boko Haram. D'intenses affrontements se sont déroulés dans la soirée de lundi, ont précisé des sources militaires jointes par l'AFP. Chérubin Dorsil.
Selon une source proche des autorités locales, une grande opération de ratissage est en cours dans les îles tchadiennes du lac Tchad. Les soldats tchadiens ont tué 6 combattants de Boko Haram et blessé 15 autres, indique une source sécuritaire qui a aussi fait état de mort dans l'armée tchadienne. N'Djamena a décidé de lancer cette offensive, à laquelle participent au moins 1 millier de soldats, suite à une série d'attaques meurtrières des insurgés islamistes nigérians. Ces derniers ont accru leurs activités dans les centaines d'îlots du lac Tchad, où, disent les autorités, nombreux d'entre eux ont cherché refuge après avoir subi des revers dans leur base au Nigeria. Près de 90% des habitants de ces îles ont été évacués sur ordre du gouvernement tchadien. Boko Haram, rappelle l'AFP, est aussi pointé du doigt pour la mort de 7 personnes dans l'extrême nord du Cameroun durant les dernières 48 heures. 3 d'entre elles ont été décapitées. Le président nigérian Muhammadu Buhari est attendu ce mercredi au Cameroun après avoir visité le Tchad et le Niger. Ces 3 pays aident le Nigeria dans la lutte contre Boko Haram.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis et la Turquie ont musclé leur coopération militaire pour éradiquer le groupe État islamique du nord de la Syrie, alors qu'Ankara a promis de continuer ses frappes contre les rebelles kurdes jusqu'à ce qu'ils déposent les armes. Ce nouveau partenariat vise à établir une zone débarrassée de l'EI et d'améliorer la sécurité et la stabilité le long de la frontière entre la Turquie et la Syrie, a déclaré à l'AFP un responsable militaire américain. Les détails de l'accord évoqué par Washington restent toutefois à définir. Selon le responsable américain, il impliquerait un soutien turc aux partenaires au sol des États-Unis, à savoir les troupes de l'opposition syrienne modérée. En revanche, il ne s'agit pas d'instaurer la zone d'exclusion aérienne réclamée par Ankara. Par ailleurs, les États-Unis ont officialisé hier la nomination d'un nouvel émissaire pour la Syrie, Michael Ratney, le 3e depuis le début de la guerre il y a 4 ans, Washington n'ayant pas abandonné son projet d'une solution politique entre Damas et l'opposition.
L'organisation scout américaine qui acceptait déjà les jeunes scouts homosexuels a franchi un nouveau pas en votant hier la fin de l'interdiction des gays dans son encadrement tout en permettant des exceptions. Le conseil d'administration de Boy Scouts of America, qui compte quelque 2,5 millions de membres et près d'1 million d'encadrants bénévoles, a abrogé avec effet immédiat l'interdiction nationale relative aux dirigeants adultes et employés ouvertement homosexuels. Néanmoins, les organisations affiliées au mouvement scout de type religieux qui ont une gestion autonome peuvent décider de continuer à refuser les adultes gays, indique l'AFP.
Environnement, pour finir, plus d'une dizaine de grandes entreprises américaines, dont Apple, UPS et General Motors, s'engagent à lutter contre le changement climatique. Bagassi Koura.
Des représentants de ces géants de l'économie américaine, dont également Coca-Cola ou encore la banque Goldman Sachs, ont officialisé hier soir leurs engagements en présence du secrétaire d'État John Kerry, ainsi qu'un programme d'objectifs très ambitieux propre à chaque entreprise. Selon la Maison-Blanche, les promesses de ces entreprises vont de la réduction des gaz à effet de serre de leurs usines au financement d'activités à faible empreinte carbone. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la grande conférence sur le climat prévue à Paris du 30 novembre au 11 décembre. Elle réunira sous l'égide des Nations Unies 195 pays qui devraient s'engager à limiter à 2 degrés Celsius la hausse de la température mondiale générée par les émissions de gaz à effet de serre.
Ce qui retient l'attention dans l'actualité économique en Afrique, c'est l'heure de la Minute Éco avec ce matin Camille Grosdidier.
Inauguration lundi en République démocratique du Congo de 18 locomotives neuves de la Société nationale des chemins de fer du Congo, la SNCC. La cérémonie a eu lieu à Lubumbashi, chef-lieu du Haut-Katanga, en présence du chef de l'État Joseph Kabila. Ces locomotives, dont le coût s'élève à plus de 31 millions de dollars, ont été acquises grâce à un financement de la Banque mondiale à travers le projet de transport multimodal, précisent les médias congolais. L'espoir est que ces acquisitions vont faciliter un nouvel essor de la compagnie ferroviaire, même si les critiques rappellent qu'une réhabilitation intégrale de plus de 1200 km du réseau de voies ferrées sera nécessaire. Au Nigeria, la banque Amcon, Asset Management Corporation of Nigeria, a donné 3 mois aux mauvais payeurs pour assainir leurs comptes, faute de quoi elle compte se conformer aux instructions de la Banque centrale du Nigeria et publier leur nom dans les médias tout en leur interdisant de poursuivre leurs opérations sur les marchés. Et puis au Kenya, une start-up, Green Char, fabrique des briquettes combustibles propres. À base de déchets de canne à sucre, elles n'émettent pas de fumée nocive comme les briquettes à base de charbon de bois et qui provoquent des maladies pulmonaires.
Un condensé de l'actualité sportive maintenant avec nous ce matin, Nicolas Pineau. Bonjour Nicolas.
Bonjour Jacques.
Les nouvelles de Didier Drogba pour commencer. Drogba qui signe à Montréal.
Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé tel que le stipule la politique de la Major League Soccer, a précisé la formation montréalaise. L'attaquant ivoirien Didier Drogba a conclu un accord avec l'Impact de Montréal. Il va donc quitter les terrains européens pour le championnat nord-américain. C'est ce qu'a annoncé le club de la métropole québécoise. Le buteur de 37 ans avait annoncé fin mai, après avoir aidé le club londonien de Chelsea à remporter la Première Ligue, qu'il quitterait les Blues à la fin de la saison et qu'il entendait jouer encore un an au moins dans un autre club avant de prendre sa retraite sportive.
Les clubs algériens de football ne sont plus autorisés à recruter à l'étranger.
En raison de la crise financière qui a fait perdre au pays la moitié de ses revenus pétroliers, c'est ce qu'a annoncé la Fédération nationale de football. Les joueurs disposant d'un contrat pourront néanmoins jouer jusqu'à la fin de leur engagement avec le club, a précisé la Fédération algérienne de football.
Des noms à mentionner dans la rubrique transfert.
Jordan Ayew signe avec Aston Villa. L'attaquant international ghanéen de Lorient s'est engagé pour 5 ans avec le club anglais après avoir passé la fameuse visite médicale. Le montant du transfert est estimé par les médias britanniques à 12 millions d'euros. Sachez également que le gardien argentin de la Sampdoria de Gênes, Sergio Romero, s'est engagé pour les 3 prochaines saisons avec Manchester United. Passé par Monaco, le portier âgé de 28 ans remplacera l'Espagnol Victor Valdés comme doublure de David De Gea, toujours dans l'attente d'un éventuel transfert vers le Real de Madrid.
Et pour terminer, Boston renonce aux JO 2024.
La ville a renoncé à sa candidature à l'organisation des Jeux Olympiques d'été de 2024, selon le Comité Olympique américain. Plus tôt dans la journée, le maire de Boston, Marty Walsh, avait fait part de ses très fortes réticences à l'organisation de l'événement en raison de ses craintes pour les finances de la ville en cas de dépassement des coûts. Boston, je vous le rappelle, Jacques, avait été désigné comme candidat de choix des États-Unis en janvier dernier face à Washington, Los Angeles et San Francisco. Le Comité olympique américain a indiqué qu'il se donnait jusqu'au mois d'août pour éventuellement désigner une autre ville américaine qui pourrait se porter candidate.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Voilà donc pour le journal. Vous êtes toujours branchés sur la VOA émetteur de Washington. Jacques Aristide au micro. Le Monde aujourd'hui se poursuit avec le segment magazine. Au Burundi, l'entrée d'Agathon Rwasa à l'Assemblée nationale a nouvellement élu et jugé par ses compagnons de l'opposition comme une mort politique qu'il a signée. Une démarche qui démontre son incohérence par rapport à ses déclarations, d'après les observateurs. Eric Manerakiza a joint l'expert en gouvernance politique, Anathanas Karayenga.
C'est beau écouter les propos de son porte-parole, revenir à ses propres propos avant les élections, pendant les élections, après les élections. Il ne me semble pas qu'il y a beaucoup de cohérence entre son attitude avant les élections et actuellement. Je ne comprends pas non plus en quoi sa présence dans les institutions peut changer le sort de ces militants qui ont été persécutés depuis plusieurs années, qui sont tués, qui sont emprisonnés. J'ai peur de penser que c'est un effondrement de la carrière d'un homme qui était présenté jusqu'à présent comme un homme aurait pu constituer une solution de rechange.
Ce sont des élections qui n'ont pas été jugées crédible ni transparente par différentes missions dépêchées à Bujumbura. Est-ce que le troisième mandat ira jusqu'au bout, selon vous ?
Les puissances occidentales principalement qui ont décrié et qui dénoncent aujourd'hui ce troisième mandat, qui ont mis en garde contre ce troisième mandat et qui ont déjà même par avance affirmé qu'elles ne reconnaîtront pas le troisième mandat des institutions qui sortiront de ces élections. Je ne pense pas que ces puissances vont changer d'avis. Il me semble qu'il y a une légitimité qui va aller jusqu'au bout. 26 août, je crois que la communauté internationale, comme tous les Burundais, attendent la fin du mandat légal du chef de l'État actuel, Pierre Nkurunziza. Et au-delà, il y aura probablement des puissances qui vont dire « Vous étiez prévenus, nous vous avions mis en garde, nous avions exprimé notre hostilité à l'égard du troisième mandat. On ne vous reconnaît pas. » Beaucoup de forces burundaises aussi, ceux qui ont depuis plusieurs mois exprimé leur hostilité au troisième mandat, peuvent considérer que le Burundi n'a plus de chef d'État, peuvent considérer que c'est le vide, cette fois-ci vraiment institutionnelle, et ces forces politiques peuvent travailler sur une stratégie de désignation d'un chef d'État intérimaire qui va assumer la transition et qui va donner surtout une chance pour que ce pays ne continue pas la descente aux enfers et qui peut donner aussi aux forces de l'ordre qui risquent d'imploser à partir du 26 août de rester cohérent parce que le Burundi, pour le moment, il est dans un passage extrêmement délicat. S'il n'y a pas une force alternative, une force politique qui donne le cap, qui donne une vision, il peut y avoir une implosion vraiment, une dispersion des forces, un chaos totalement non maîtrisable.
Athanas Karayenga, chercheur dans le domaine des médias, était en ligne de Dijon en France. République démocratique du Congo, la haute cour militaire entendra les plaidoiries dès jeudi prochain au procès en appel sur l'assassinat de Floribert Chebeya. La cour a fait la sourde oreille à la demande des parties civiles d'étendre les investigations, notamment sur le dernier témoin Kalala Kaloa et sur un autre témoin présentement en exil à Dakar. Selon la défense, la cour a brusqué la procédure pour des raisons évidentes. Eddie Sango a recueilli le point de vue de l'un des avocats du collectif de la défense de Floribert Chebeya, maître Kabangele Ilunga.
La haute cour militaire devant laquelle nous comparaissons a brusqué la procédure en ce qu'elle n'a pas entendu investiguer plus loin pour entendre notamment John Numbi qui a été entendu au premier degré, le général Oleko également. La cour n'a pas voulu suivre le renseignant Kalala Kalao, alors que celui-ci indique qu'il y avait en la même date trois personnes tuées. La cour n'a pas exclu sinon pas instruit à suffisance, sur la disparition de M. Bazana qui accompagnait Floribert Chebeya. La cour ne s'est pas fait de soucis de vérifier où serait le corps de Bazana à la suite de la découverte du charnier de Maluku et d'autres pistes indiquées par Paul Mouilambo, qui est maintenant en procédure devant la justice sénégalaise. Alors, il y a beaucoup de pistes que la Cour a semblé mettre de côté, tout simplement parce que la Cour, nous semble-t-il, répond aux ordres politiques au lieu de faire la justice aux veuves et aux orphelins, et surtout pour faire établir la vérité, toute la vérité sur l'assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana.
Êtes-vous encore confiant à l'avenir dans ces procès, et que pensez-vous de l'issue de ces procès au regard de ce qui se passe maintenant?
On y va malgré nous pour tout simplement éventuellement avoir un arrêt qui pourra être révisé le cas échéant lorsque les juges pourront recouvrer leur indépendance d'appréciation de faits leur soumis.
Il y a une procédure au Sénégal. Allez-vous tourner vers le tribunal du Sénégal pour demander que Mouilambo soit entendu ainsi que les autres que vous citez?
C'est la voie indiquée, en ce que toutes les personnes impliquées dans l'assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana n'ont pas été inculpées devant la justice congolaise. À telle enseigne que le principe non bis in idem ne peut pas jouer à l'égard des personnes qui n'ont jamais été jugées par la justice congolaise. Et là, la voix d'autres juridictions, de certains États qui ont la compétence universelle en matière pénale, s'ouvre. L'hypothèse que nous avons soulevée, qui est maintenant vérifiable, c'est le crime d'État. On s'est servi des structures de l'État et ce sont les mêmes animateurs des structures de l'État qui assurent l'impunité.
L'avocat Kabangele Ilunga du collectif de la défense dans l'affaire Chebeya, joint à Kinshasa.
La Voix de l'Amérique en RDC, sur la radio communautaire du Katanga, à Lubumbashi, à Kamina et à Likasi.
Le président Barack Obama termine son périple est-africain aujourd'hui à Addis Abeba par une visite au siège de l'Union africaine où il doit prononcer un discours. Que faut-il attendre de ce discours? La question posée par Idrissa Seydoudia au journaliste et analyste politique africain Dame Babou, directeur d'une station de radio basée à New York.
Moi, je pense que le président Obama va rester conséquent, très cohérent. Depuis qu'il est sénateur, il s'est rendu au Kenya. Il avait dit que si l'Afrique ne règle pas les problèmes de la corruption, c'est pas la peine d'essayer de développer ce continent. Je pense que le président Obama est resté cohérent. Il l'a répété au Kenya. Et je pense aussi qu'il va dire exactement la même chose. Ça, c'est un des points. Il y a aussi le point du terrorisme qu'il va aborder, je crois.
Et il y a la situation humanitaire aussi dans le Soudan du Sud, l'un des derniers pays indépendants d'Afrique.
C'est sûr, mais je pense que le président Barack Obama va aborder cette question. C'est non seulement une question de principe pour lui, ce n'est pas pour rien que les Américains et l'Occident et une partie de l'Afrique aient vraiment encouragé la Cour pénale internationale à s'attaquer au président du Soudan à cause de ce qui s'est passé au Sud-Sud. Ailleurs. Donc cette question est extrêmement importante, le président Obama va l'aborder, mais aussi sous l'angle du terrorisme. Aussi longtemps que nos États s'affrontent entre eux, ils resteront fragiles et ils resteront aussi le terreau du terrorisme et surtout de l'entraînement et de la formation des terroristes qui vont hanter le monde entier.
Comme vous le savez, Obama avait prononcé au début de sa présidence un discours très remarqué au Ghana, à Accra, sur la bonne gouvernance, en disant que l'époque des hommes forts, des strong men, comme on dit, est révolue en Afrique. Comment faudrait-il évaluer ce discours et ses résultats?
Je pense que le président Barack Obama va continuer à le dire parce qu'il l'a dit au Kenya. Et il va répéter ça. Et je pense aussi que de moins en moins, les Africains sont réfractaires à ce genre de discours. Je suis sûr qu'il y a de cela quelques années, si un autre président américain l'avait dit, si George Bush l'avait dit, ce serait un problème. Mais aujourd'hui, le président Barack Obama est bien légitime pour dire aux Africains, combattons la corruption et ne nous parlez pas d'hommes forts, parlez-nous d'institutions fortes. Et les institutions fortes ne peuvent pas exister dans le cadre d'États fragiles, dans le cadre d'un État géré avec la malgouvernance. Je pense qu'il va être conséquent, il va être cohérent, il va rester sur cette ligne. Et il a plus de liberté que les autres pour le dire.
Mais comme vous le savez, en Éthiopie, depuis Mélès, franchement, ce qui s'est passé, il est mort. Le pouvoir a été continué en quelque sorte par son premier ministre, par son adjoint. Où est la démocratie dans tout ça?
Je pense que ça me surprendrait que le président Barack Obama aille si loin dans ce cadre-là. Ce sera probablement un discours sur la bonne gouvernance, sur la démocratie, de manière globale à l'échelle du continent. Mais ce qui s'est passé avec le président kényan en termes de la question des homosexuels et autres, je ne pense pas qu'il puisse répéter ça. En tout cas, ce serait une surprise pour moi.
Le journaliste Adam Babou, basé à New York.
Nouveau numéro de Washington Forum consacré cette semaine au voyage de Barack Obama au Kenya et en Éthiopie. Le président américain a mis l'accent sur l'économie et la lutte contre le terrorisme. Qu'avez-vous pensé de ce voyage de Barack Obama? Venez en débattre sur notre page Facebook et rendez-vous ce jeudi dans Washington Forum, 19h temps universel sur VOA Afrique.
Le rapport annuel du département d'État américain sur le trafic d'êtres humains souligne que cette activité crée de grosses fortunes à travers le monde en exploitant, surtout au plan sexuel, des millions de personnes aux quatre coins de la planète. C'est un esclavage moderne qui génère annuellement 150 milliards de dollars, a dit le secrétaire d'État américain John Kerry, qui a appelé les gouvernements du monde à renforcer leur législation pour lutter contre ce phénomène. Pour une réaction au rapport, Timothée de Nongmaï a joint à New York Taina Bien-Aimée, directrice exécutive de la Coalition contre la traite des femmes.
Il y a beaucoup de gens qui disent que ce sont des décisions qui sont géopolitiques, sociopolitiques, économopolitiques. Mais pour nous, à la coalition, ce qui nous perturbe, c'est qu'il y a beaucoup de gouvernements, surtout en Europe et en Australie, comme par exemple l'Allemagne, l'Autriche, l'Australie, la Hollande, où la prostitution est réglementée. Et donc, nous savons qu'il y a un lien direct entre la réglementation de la prostitution, du commerce du sexe, et la traite des femmes et des filles. Et donc, nous aimerions voir un rapport qui adresse cette situation, qui regarde les éléments de trafic et d'exploitation qui ne sont pas vraiment développés dans ce rapport.
Vous avez parlé des pays développés où l'on a légalisé la prostitution. Quelle est la situation dans les autres pays?
Il y a la criminalisation totale, comme aux États-Unis et ailleurs. On ne peut pas ni vendre ni acheter le sexe. Et il y a la légalisation où tout va. Donc les proxénètes, les acheteurs de sexe, tout est légal, quoi. L'industrie du sexe est complètement légale. Et c'est là qu'on voit vraiment une augmentation sérieuse et alarmante de la traite des femmes. Et quand je parle de la traite des femmes, je pense surtout en Allemagne, où la majorité des femmes dans ces maisons closes sont des pays les plus pauvres de l'Europe de l'Est, de l'Afrique, de l'Asie. Et puis après, il y a ce troisième modèle, si vous voulez, qui est le modèle nordique, qu'on appelle nordique parce qu'il a commencé en Suède, où les seules personnes qui sont pénalisées sont les acheteurs de sexe, reconnaissant que ceux qui sont contraints à vendre leur corps le font d'une position de vulnérabilité, de pauvreté, d'inégalité de genre. Et donc, c'est un modèle qui vraiment regarde la traite de façon intelligente, compréhensive, et d'une façon où on voit le bout du tunnel, si vous voulez. Hein, parce que tant qu'il y a légalisation de la prostitution, la traite va augmenter.
Taina Bien-Aimée, directrice exécutive de la Coalition contre la traite des femmes, une ONG basée à New York.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets débat. RM Show donne la parole aux auditeurs. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est ici que nous allons clore le monde aujourd'hui, en ce mardi 28 juillet. Anne Albertson a dirigé la mise en onde. John Ellison a assuré la partie technique. C'était Jacques Aristide à Washington. Excellente journée, à demain matin. Take care.
au cœur de l'info sur VOA Afrique.